RCF, il est 6h.
Le génie du christianisme, une émission d'Émeline Picard.
Le génie du christianisme vous propose aujourd'hui la conversion de la Madeleine de Georges de la Tour. Et pour voir et expliquer ce qui est une gageure à la radio, ce magnifique tableau de Georges de la Tour, nous accueillons aujourd'hui Sophie de Gourcy. Bonjour Sophie.
Bonjour Émilie.
Donc vous êtes historienne de l'art, enseignante, conférencière, et vous avez le talent de pouvoir nous expliquer à la radio cette œuvre absolument magnifique. Alors peut-être avant de commencer à entrer dans l'œuvre, qui est Georges de la Tour? C'est un peintre un peu mystérieux, me semble-t-il.
Oui, exactement, très mystérieux parce que redécouvert simplement en 1915 et du 17e jusqu'en 1915, on en avait oublié jusqu'au nom. Et il se trouve qu'un jeune étudiant d'histoire de l'art, un Allemand, Hermann Voss, va s'intéresser et regrouper des œuvres autour de sa vie. Alors, Georges de la Tour, que sait-on? Eh bien, il est né en 1593. Il meurt en 1652. C'est un peintre lorrain. Alors, il y a de grands mystères sur sa vie. On ne sait pas où il a été formé. Peut-être est-il venu dans sa jeunesse à Paris. Il est resté certainement très longtemps aussi à Nancy, à Lunéville, à Vic, qui est Vic-sur-Seuil, qui est le lieu de sa naissance. Alors, que reste-t-il de lui? 45 tableaux authentifiés, certains, et puis une trentaine d'autres qui gravitent autour de ce noyau de 45 tableaux et qui sont probablement des copies des œuvres dont on a perdu finalement les originaux. Et donc, il va vivre à Lunéville, se marier en Lorraine. Il est le fils d'un boulanger. Et d'après les textes, eh bien, cet homme plein de méditation, de beauté dans ses madeleines, aurait été un homme brutal, ayant des prétentions nobiliaires, un spéculateur qui possède de nombreux chiens qui affolent ses contemporains. On le connaît pour avoir donné des coups de pied aux paysans, de recevoir d'une façon assez ardue donc ceux qui viennent lui demander les taxes qu'il doit payer, qu'il ne veut pas payer.
Donc, oui, donc il y a une sorte de paradoxe entre la paix, la beauté, la sérénité de ses peintures et la réalité de sa vie et de sa personnalité.
Le souvenir qu'il en a laissé et peut-être qu'on a gardé que certains mauvais souvenirs de sa vie.
En même temps, la Lorraine de l'époque n'était pas non plus un espace de tranquillité et d'harmonie, si mes souvenirs sont bons.
Exactement. Donc, l'époque de Georges de la Tour est une époque terrible pour la Lorraine. C'est le temps de la guerre de 30 ans, 1618-1648. C'est l'époque de la peste et puis l'époque de ces invasions, non seulement françaises, puisque Richelieu veut finalement que ce territoire soit fidèle à la royauté. Il va traverser la Lorraine de ses troupes, mais il a pour associé à cette campagne eh bien les terribles Suédois. Et donc les princes de Lorraine, les ducs de Lorraine, eux sont les alliés de la dynastie des Habsbourg, ce qui fait que c'est un terrain de conflit, et cela pendant plus de 30 ans.
Voilà, malheureusement la Lorraine reste toujours tiraillée entre la France et l'Allemagne, entre le Royaume de France et le Saint-Empire romain germanique. Et c'est vrai qu'elle est régulièrement traversée par l'une ou l'autre de ses troupes. Et ce sera peut-être l'objet d'une autre émission, mais on connaît les gravures de Jacques Callot, les grandes misères de la guerre qui décrivent les atrocités de ce temps. Est-ce que ça a un impact peut-être sur la spiritualité? Alors on a la violence de Georges de la Tour, mais dans ces périodes, on se tourne peut-être vers Dieu.
Oui,
aussi.
Alors bien sûr, cela va marquer la spiritualité du temps, d'autant que nous sommes à l'époque du Concile de Trente. Et il va y avoir en Lorraine, c'est vraiment une terre catholique, donc de très nombreuses fondations, d'institutions nouvelles. Il y a aussi un prêtre qui s'appelle le Père Fourier, qui va fonder des écoles. Donc il y a un renouveau catholique extraordinaire et des institutions nouvelles, par exemple
des femmes qui vont créer de nouveaux couvents, des dévotions aussi particulières. Et il faut dire aussi, puisque nous allons regarder des tableaux sur Sainte-Marie-Madeleine, que le XVIIe siècle est très attiré par cette figure de dévotion. Par exemple, le pape Urbain VIII va en faire la protectrice de sa papauté. Et il y a de très nombreux ouvrages de méditation sur la conversion de la Madeleine, et notamment Bérulle, qui en 1627 publie un ouvrage sur les méditations de la Madeleine. Donc un fond très fort qui parle de cette sainte.
Et pourquoi spécifiquement cette dévotion et ce retour finalement à ce culte des saints avec cette particularité de Madeleine? C'est quand même un sujet particulier.
Là aussi, c'est lié au Concile de Trente et puis surtout à ce désir de récupérer les âmes qui ont été tentées par le protestantisme, qui va complètement éradiquer ce qu'étaient les sacrements, et puis surtout la dévotion aux saints. Donc, puisque les protestants combattent cette dévotion et détruisent tout ce qui est sculpture religieuse rappelant les dévotions aux saints locaux, eh bien, on va réaffirmer d'une façon très accentuée la dévotion que l'on peut avoir envers ces saints. Et puis, cela va stimuler la commande religieuse, de nombreux tableaux, de nombreuses sculptures qui vont de nouveau réalimenter la vision dans les églises, dans les monastères et pour la dévotion privée.
Et donc la Lorraine est une sorte de frontière de catholicité contre le protestantisme, et Georges de la Tour est l'un des soldats d'une certaine manière de ce retour au culte des saints et de ce retour à la Madeleine. Est-ce qu'il s'inscrit dans un courant peut-être d'histoire de l'art, dans la mesure où la figure de Madeleine n'apparaît pas au XVIIe siècle? Il y a peut-être des traditions picturales antérieures dont il s'inspire, oui. Ou est-ce qu'il est plutôt en rupture par rapport à la manière traditionnelle dont on représentait les Madeleines?
Alors la Madeleine, en fait, c'est un sujet qui était très fréquemment représenté depuis le XVe siècle. Il y a de nombreuses représentations de la Madeleine. Mais au XVIIe, elle est beaucoup plus vivante, parce que ce qui va intéresser, c'est la beauté de la Madeleine, qui sera d'autant plus touchante qu'elle sera une femme exemple de conversion. Donc, plus la Madeleine est belle, plus sa conversion sera touchante. Et le XVIIe siècle parle au cœur, mais parle aux yeux, et donc joue sur les émotions des fidèles. Et il faut que la Madeleine soit très belle pour que le fidèle et le spectateur de l'œuvre soient touchés et se posent la question aussi de sa propre conversion. Alors généralement, le portrait de la Madeleine est exposé dans les sacristies, mais en face, il y a un saint plus ancien, un saint Pierre pénitent, par exemple, ou bien un saint Jérôme, la pénitence de saint Jérôme. Alors donc, la Madeleine et puis le saint Pierre, ce sont des images fortes de la pénitence. Parce qu'en même temps qu'il faut réactiver le culte des saints, il faut réactiver le recours au sacrement, et notamment le sacrement de la pénitence.
Et donc, effectivement, la confession et cette volonté d'un retour personnel à Dieu. On n'est pas dans une religion communautaire, finalement. On appelle vraiment chaque pécheur à se convertir.
À se convertir avec beaucoup de franchise. Et surtout, eh bien, les protestants étaient trop optimistes. Ils disaient que c'était Dieu seul qui pouvait nous conduire à notre salut et que nos œuvres n'avaient pas d'importance. Or là, eh bien, c'est une façon de montrer les œuvres à travers cette conversion. Mais surtout, un thème éminemment baroque, c'est le thème des larmes. Pourquoi cette conversion est-elle convaincante dans un tableau? C'est que l'on va mettre en scène une Madeleine qui pleure. Et les peintres vont avoir à cœur de représenter, donc, avec le plus de réalisme possible, l'écoulement des larmes sur les joues de la Madeleine. Et en face, eh bien, vous avez Saint-Pierre qui pleure lui aussi, pour montrer, finalement, la franchise de cette conversion.
Donc on n'a pas peur des sentiments, on n'a pas peur finalement de l'incarnation, c'est-à-dire qu'on n'est pas sauvé de manière abstraite, j'allais dire par pure volonté divine, on fait partie aussi de ce salut, donc c'est très optimiste aussi par rapport à la liberté humaine, même si ça peut être effectivement terrifiant. Donc c'est au-delà du tableau toute une civilisation en fait qu'on redécouvre en observant et en analysant un tableau de Georges de la Tour.
C'est vrai qu'en regardant Georges de la Tour, on est appelé par les sentiments qu'il arrive à traduire dans ses peintures. Alors bien sûr, il faut commencer à parler de ces fameuses Madeleines, et il va travailler le sujet en série. C'est-à-dire qu'il nous reste 5 Madeleines en réalité,
Mais il a dû y en avoir bien plus. C'était un thème vraiment très porteur.
Alors là, peut-être ma question est vraiment celle d'une béotienne. Quand on parle de série, est-ce que ça signifie qu'il reproduit le même tableau avec quelques modifications minimes, ou est-ce qu'on est peut-être dans la série, je pense à l'impressionnisme du 19e, où c'est le même thème avec des lumières extrêmement différentes et on n'a pas forcément l'impression de voir la même peinture.
Alors, les Madeleines que nous allons voir de Georges Latour sont très proches les unes des autres. Et pourtant, si on pouvait les regarder les unes à côté des autres, on verrait des variations. Alors, tout d'abord, ce sont des tableaux en nocturne, tous. Alors, il faut savoir que dans la création de Georges de Latour, il y a deux phénomènes. Il y a les tableaux en diurne, qui représentent des scènes du quotidien, qui sont souvent assez violentes, qui sont âpres et qui nous montrent finalement des rixes, par exemple, ou bien la pauvreté. C'est très rude, les sujets qu'il choisit pour les scènes de diurne. En revanche, et c'est là qu'apparaît peut-être le côté caché de Georges de Latour, les scènes en nocturne sont pleines de renoncement, sont pleines de méditation, de silence, de tendresse, de douceur. Et il va prendre la Madeleine en train de méditer dans la solitude, parce que la nuit, le nocturne, c'est le temps de la solitude et le temps de la méditation, puisqu'il était recommandé depuis Saint Ignace de Loyola de méditer la nuit dans le silence. C'est le temps de cette profondeur.
Écoutons avec bonheur Sophie de Gourcy, historienne de l'art, enseignante, conférencière, qui nous plonge dans ce XVIIe siècle dans la lumière, ou plus exactement dans le nocturne de Georges de Latour. Avant la pause, nous évoquions finalement l'intimité et c'est vrai que quand on a le tableau sous les yeux, et je vous encourage effectivement à aller les voir sur internet, c'est très simple maintenant d'avoir une petite idée de ce qu'est Georges de Latour, on a l'impression d'être dans la chambre de la Madeleine. Alors une petite question là aussi de béotienne, la technique pour évoquer la nuit et ces jeux de lumière, ça a l'air très compliqué. Enfin, si on a fait un tout petit peu de dessin, on sait que c'est pas forcément évident, tous ces jeux de lumière. Comment Georges de Latour exprime cette intimité ?
Alors, en fait, Georges de Latour a certainement l'expérience des nocturnes de l'époque caravagesque. Alors, comment a-t-il connu ces tableaux ? Alors, la grande question est de savoir, est-il allé en Italie ? A-t-il rencontré les caravagesques là-bas ? Puisque ce type de nocturne peinture a été très en vogue de 1620 jusqu'à 1660 à peu près. Et en fait, on hésite beaucoup sur ce voyage et on pense qu'il n'a pas eu lieu. Il se peut que Georges de Latour ait connu ces nocturnes par le transfert de ses tableaux, ou bien par un voyage en Hollande ou dans les pays nordiques qui pratiquaient cet art du nocturne. Alors en Flandre notamment, beaucoup d'artistes ont eu cette période caravagesque et de nocturne. Et ensuite, le nocturne était décrit dans les traités de peinture. Alors vous avez un traité de peinture de Sandrart qui au XVIIe explique que si l'on veut faire un nocturne, il faut faire un grand feu dans une cheminée de l'atelier et voir la diffusion de cette lumière, donc le rougeoiement de tous les objets qui sont dans la proximité du feu. Et ici, on a justement dans les tableaux de Georges de Latour, alors si nous regardons par exemple la Madeleine Fabius, qui est une Madeleine repentante de 1635 qui est conservée à la National Gallery. Et voyez une jeune Madeleine qui est perdue dans ses pensées, qui appuie son menton donc sur son poignet. C'est en fait une image très traditionnelle de la méditation qui était tout à fait convenue. Et puis alors dans les Madeleines de Georges de la Tour, il y a un objet qui revient fréquemment, qui est typique du XVIIe, c'est le crâne. Donc elle médite dans la tranquillité et sa main caresse en quelque sorte le crâne qui est à contre-jour et qui est caché par une bougie, la flamme d'une bougie qui est juste derrière. Alors ce crâne, eh bien, il traverse tout le 17e parce que c'est l'image du memento mori, c'est-à-dire en le regardant, on imagine que sa vie aura un terme et qu'il faut peut-être régler sa vie selon le terme et le but que l'on veut atteindre, c'est-à-dire son salut. Donc penser constamment à la mort, cette pensée ne doit pas être triste, mais doit faire évoluer la vie vers une recherche de bien.
Donc, c'est ce qu'on disait avant la pause, ce ne sont pas des tableaux décoratifs, ce sont des tableaux qui visent finalement à la conversion, alors peut-être d'abord à la réflexion et ensuite à la conversion. Exactement. Et au salut finalement du spectateur.
En fait, ce sont des tableaux qui vivent à soutenir la vie, puisque ces sujets étaient choisis pour aider une jeune fille qui rentrait au couvent. Et Philippe de Champaigne va faire pour sa fille qui rentre au couvent une Madeleine, pour qu'elle ait sans cesse ce modèle de vie d'ermite et de solitude.
Oui, parce que ce sont de très jeunes et de très jolies femmes qui sont représentées et qui néanmoins se tournent vers la pénitence et vers le salut. C'est pas forcément très facile quand on a les séductions de ce monde, même au XVIIe siècle.
Ça c'est vrai. Et puis justement, dans une autre Madeleine qui s'appelle la Madeleine Breitmann, qui est datée aussi de 1638, on voit une très belle Madeleine avec une superbe robe rouge, un corsage assez échancré et qui se regarde dans un miroir. Donc la pièce n'est éclairée que par une bougie dont la flamme est très étirée et qui se reflète dans le miroir. Donc en fait, il y a deux flammes. D'ailleurs, on l'appelle la Madeleine aux deux flammes. Alors là, on voit que la conversion est toute récente puisqu'elle a encore ses très beaux habits et elle a encore cette attitude finalement assez sensuelle. Elle ouvre largement son corps. Mais les bijoux ont été posés sur la table et même jetés au sol. Donc, cette conversion, elle a été brutale et surtout, elle a été très volontaire, pleine d'énergie. Les bijoux ont probablement été arrachés de son col et sont cassés. Donc, ils sont jetés et ils sont là pour signifier son passé de courtoisie. Et donc, que Madeleine avait une vie très, finalement, très décalée et puis peut-être une prostituée. Alors, là encore, la Madeleine Breitmann nous montre une jeune femme qui se regarde dans le miroir, qui pose ses mains sur le crâne, et le crâne bien nous montre cette méditation sur les fins dernières.
Alors, quand on regarde les différentes Madeleines, effectivement, on est très marqué par ce sentiment de clair-obscur et par la dextérité du peintre, finalement, dans la représentation de la lumière. Il me semble que, à vous entendre, tout est symbole dans ces peintures et qu'il ne s'agit pas simplement d'une chandelle ou d'une double chandelle et d'une lumière juste pour montrer, regardez à quel point je sais bien faire le clair-obscur. Quelle peut être la signification de cette lumière dont on voit bien qu'elle est le centre en réalité?
Exactement. Donc la lumière avait une très forte symbolique au XVIIe siècle. Elle était l'image de la présence de Dieu. Et cela d'ailleurs depuis les cathédrales gothiques qui recherchaient la lumière intensément. Et cela aussi depuis les textes du XIIe siècle. Alors donc, ici, la Madeleine est devant cette flamme qui s'étire, c'est l'image de la présence de Dieu, et cette flamme se reflète dans le miroir, parce que la flamme évoque l'âme qui est réchauffée par la présence de Dieu et qui va essayer d'être le reflet à l'imitation de Jésus-Christ. Donc c'est l'image de la conversion, mais c'est l'image aussi de la force de la foi qui vient remplir maintenant la Madeleine. Donc, alors la méditation sur la flamme était très intense. Il y a aussi la présence de ce miroir. Le miroir, c'est l'image du passé, de son passé de volupté. Mais le miroir peut être compris d'une façon plus actuelle. Elle sait regarder, elle a su finalement se comprendre et elle va se transformer. Donc le miroir était connu comme emblème de la vertu de prudence, c'est-à-dire du « connais-toi toi-même ». Et quand on se connaît bien, on peut mieux se contrôler et mieux finalement changer de vie. Donc le miroir est un appel pour le spectateur aussi. Et vous, connaissez-vous vous-même pour arriver à rejet des vanités?
On a presque l'impression que le tableau invite le spectateur à rentrer dans le tableau et à regarder la lumière qui s'arrête pas au tableau d'une certaine manière. C'est comme si nous étions aussi touchés par cette lumière.
Exactement. La beauté des tableaux de Georges de la Tour, c'est que le cadrage est assez serré. Et c'est-à-dire qu'on est au plus près de la Madeleine et on est non seulement le témoin, mais c'est comme si on était le témoin et finalement on était impressionné. Alors d'ailleurs, il faut voir que dans le tableau précédent dont je vous parlais, la Madeleine au miroir, la Madeleine Fabius, 1635, la flamme bouge et s'incline, ce qui veut dire que Georges de la Tour s'est très bien donné un caractère vivant et on devine la respiration de Madeleine qui est comme en train d'haleter et du coup qui incline l'image de la flamme. Donc il a pensé à cela et c'est extrêmement vivant. Donc ce n'est pas du tout statique, même si l'ambiance semble être en apparence figée. Alors, ce qui est très beau aussi chez Georges de la Tour d'un point de vue de la composition, c'est qu'il résonne en forme de géométrie très claire. Et l'on voit le carré ou le rectangle du miroir et le carré très net de la robe de la Madeleine. Donc ici, il y a des carrés, puis il y a les cercles. Alors le carré, c'est l'image de la vie terrestre, et le cercle, par exemple, la belle chevelure ondoyante de la Madeleine, cela évoque beaucoup de douceur. Et il y a cercle et carré qui viennent s'entremêler, donc qui évoquent à la fois la vie terrestre, et puis le cercle, c'est l'image du ciel. Donc cela évoque aussi, rien que par les formes, un changement dans l'attitude. Alors, ce que l'on peut voir aussi, c'est que chez Georges de la Tour, dans ses tableaux en nocturne, il y a, par la force des choses, très peu de couleurs. Donc, vous avez une monochromie de bruns, des bruns les plus clairs jusqu'aux bruns les plus foncés. Et puis, vous avez une teinte blanche, ivoire, la carnation de la Madeleine, sa chemise, et puis une belle teinte rouge. Et chez Georges de la Tour, les couleurs sont souvent répétées. Et on a un rouge magnifique qui intervient et qui est la seule couleur chaude, finalement, de ce tableau et qui rappelle aussi la couleur du feu de l'atelier dans la cheminée.
Et la couleur aussi symbolique de la passion, du cœur. On a toute une série d'échos, finalement, de significations.
D'échos de la passion, comme vous le dites, parce que quand on regarde ces différentes madeleines, si la chandelle est là, c'est qu'elle est l'image de la présence du Christ. Et donc aussi, elle est l'image de la passion. On le reverra avec le Saint-Pierre. C'est que le Christ a été arrêté pendant la nuit où la scène n'est éclairée par les peintres que par des lanternes ou des bougies. Donc ça évoque toutes les étapes de la passion, de l'arrestation du Christ. Et puis cela évoque aussi la liturgie de l'époque. Il ne faut pas oublier que le XVIIe enrichit considérablement la liturgie pour qu'elle soit à l'unisson de ses émotions et qu'il va y avoir un thème nouveau. C'est le développement sur trois nuits qui précède la nuit de Pâques, de la cérémonie des ténèbres. Donc, la bougie, la lumière a une symbolique essentiel.
Merci infiniment, Sophie de Gourcy, de nous avoir non seulement permis de bien comprendre cette Madeleine pénitente de Georges de la Tour, mais surtout de nous avoir introduit dans toute une civilisation du XVIIe qui a encore beaucoup de choses à nous apprendre. Merci à notre technicien et à la semaine prochaine.
Merci.
Vous écoutez RCF et Radio Notre-Dame, place à la musique.
Chaque samedi, dans l'écho des solutions, Patrick Longchamp s'intéresse à une problématique économique et à ses solutions. Découvrez des entrepreneurs qui font rimer croissance et bienveillance et vous feront aborder l'économie sous un angle nouveau. L'écho des solutions, c'est ce samedi à 11h et 20h.
Vous écoutez RCF à Lavaur sur le 99.8 et où vous le souhaitez avec l'application RCF.
Ils sont au cœur de l'actualité. Ils sont les invités de la matinale du week-end. Chaque samedi, l'invité du week-end est interviewé en direct par nos journalistes. Une rencontre pour prendre de la hauteur et pour donner du sens à l'information. L'invité du week-end, c'est chaque samedi à 8h04 et 18h10 sur RCF.
Radio Notre-Dame, RCF, Simon Tatro.
Bonjour à tous, bon réveil. Merci de votre fidélité à Radio Notre-Dame et RCF. Nous sommes le samedi 19 octobre. Au programme de cette matinale, Monseigneur Mounir Kerala, évêque maronite de Batroun, sera à l'invité de Pauline de Torsiac. Ce sera juste après 8h. L'invité culture sera consacré aux journées nationales de l'architecture qui ont lieu ce week-end dans toute la France. On en parlera après 7h15. Ça sera peut-être l'occasion pour vous de prévoir une sortie en ce week-end. Et puis en ce 19 octobre, nous fêtons les René, Saint René Goupil, 1608-1642, médecin et frère jésuite. Il est missionnaire chez les Indiens du Canada. Il est livré aux martyrs pour avoir fait le signe de croix sur le front des enfants. Bonne fête à tous les René qui nous écoutent. Allez, belle matinée, bon réveil à toutes et à tous. Nous sommes le samedi 19 octobre, il est 6h31. Et on fait le point sur l'actualité. Ça va un petit peu mieux sur le front des intempéries. 3 départements restent en vigilance orange cru pour la journée. Il s'agit des Pyrénées-Atlantiques, des Landes et du Puy-de-Dôme. Si la décrue est amorcée sur l'ensemble du territoire, Vigicru appelle tout de même encore à la prudence, estimant que des inondations importantes sont encore possibles. D'importantes précipitations se sont abattues sur la France jeudi, un épisode pluvieux inédit par son ampleur selon Agnès Pannier-Runacher. La ministre de la Transition écologique en déplacement dans la Loire a indiqué que l'état de catastrophe naturelle va être activé très rapidement. Le Premier ministre Michel Barnier a évoqué le chiffre de 2300 interventions de la part des secours, des opérations qui ont sauvé des vies selon le locataire de Matignon. L'affaire a créé l'émoi dans la capitale 2 jours après la mort d'un cycliste âgé de 27 ans. À Paris, l'automobiliste soupçonné de l'avoir écrasé a été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire. Hier, a-t-on appris auprès du parquet de Paris. Âgé de 52 ans, il conduisait un SUV avec sa fille de 17 ans à bord quand les faits se sont produits. La victime, Paul Vary, était membre de l'association Paris en Selle. Le nouveau Front Populaire n'arrive pas à s'entendre. Lucie Castet ne se présentera finalement pas à l'élection législative partielle dans l'Isère. Je n'y vais pas. Je considère que les conditions de ma candidature n'ont pas été réunies pour cette partielle, a-t-elle déclaré hier à l'AFP. La candidate du NFP pour Matignon estime néanmoins que la personne importe peu et qu'il faut tout faire gagner la gauche pour qu'elle gagne de nouveau cette circonscription à cheval sur Grenoble et une partie de sa banlieue nord où la France Insoumise envisageait de la soutenir. Moins d'élèves sur les bancs de l'école, le nombre d'élèves scolarisés en maternelle et élémentaire du public et du privé a été en recul de 1,2% à la rentrée 2024. Selon une note du ministère de l'Éducation nationale publiée hier, une semaine plus tôt, le gouvernement avait annoncé la suppression de 4000 postes d'enseignants en raison de la baisse démographique. À la rentrée 2024, 6,262 millions d'élèves sont recensés dans les écoles privées et publiques sous contrat, soit 78 100 élèves de moins qu'à la rentrée 2023. Le Hamas a affirmé que les otages retenus dans la bande de Gaza ne seraient pas libérés tant qu'Israël ne mettrait pas fin à son offensive, et ce malgré la mort de son chef Yahya Sinwar, qui a porté un coup sévère au mouvement islamiste palestinien. Un revers cinglant pour le gouvernement de Giorgia Meloni. Un tribunal italien a validé vendredi la rétention dans des centres albanais des premiers demandeurs d'asile que Rome y a transférés cette semaine. Le gouvernement, dirigé par la chef du parti Fratelli d'Italia, a signé fin 2023 avec Tirana un accord prévoyant la création de 2 centres en Albanie d'où les migrants secourus en Méditerranée pourront effectuer une demande d'asile. Et puis environnement, le blanchiment mondial des coraux a atteint un niveau record à cause des températures élevées des océans selon une agence américaine.
Les prévisions du jour.
Encore un peu de pluie concentrée sur la façade atlantique. Aujourd'hui, partout ailleurs, alternance entre nuages et éclaircies. Du côté des températures, c'est bien doux. On relève ce matin de 8 à 16 degrés. 8 à Aurillac, 12 à Paris, 13 à Brest, 14 à Lyon et Marseille, 16 à Nice. Cet après-midi, le mercure grimpera jusqu'à 21 degrés. Allez, nous sommes donc le 19 octobre. Que s'est-il passé les 19 octobre à travers l'histoire? Eh bien, Bruno Fuma a la réponse.
Ce jour dans l'histoire.
Aujourd'hui, nous sommes le 19 octobre. Fruit d'une collaboration entre Français et Anglais, le supersonique Concorde a effectué son premier vol commercial en janvier 1976. Mais voilà, l'avion n'est pas autorisé à voler aux États-Unis. Après la levée de l'interdiction, Concorde s'envole donc pour New York le 19 octobre 1977.
Toulouse ce matin, Concorde s'envole pour la première fois vers New York. Espérons que ce que feront les pilotes cet après-midi à l'arrivée permettra aux Américains d'accueillir avec courtoisie notre appareil franco-britannique.
Le dernier vol de Concorde à destination de New York aura lieu le 31 mai 2003. Rien ne va plus sur les marchés financiers en ce 19 octobre 1987. C'est le krach d'octobre 1987, l'une des plus fortes chutes des valeurs boursières de l'histoire. En Pologne, en 1984, de retour d'une visite pastorale, le père Jerzy Popielusko, aumônier du syndicat dissous Solidarnosc, disparaît en ce 19 octobre.
L'abbé Jerzy Popielusko, 37 ans, l'un des prêtres les plus connus en Pologne pour ses prises de position en faveur du syndicat dissous Solidarité, l'abbé aurait été enlevé hier soir par des inconnus déguisés en miliciens. C'est ce que vient d'annoncer ce soir, à l'instant, la télévision polonaise.
Il a été enlevé par trois officiers des services secrets. Après avoir été torturé à mort, son corps est jeté dans la Vistule. Le 3 novembre, plus de 500 000 personnes assistent à ses obsèques à Varsovie. Sa tombe devient un lieu de pèlerinage. Jerzy Popielusko est béatifié en 2010.
Ce jour, dans l'histoire.
Côté culture, le monde de la sculpture est en deuil en ce 19 octobre 1943 avec la mort de Camille Claudel. Son art à la fois réaliste et impressionniste s'apparente à l'art nouveau. Autre décès, le 19 octobre 2013, celui du comédien Georges Descrières. Il est célèbre pour son interprétation d'Arsène Lupin dans les années 70. Il est également sociétaire de la Comédie Française.
C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une âme quand il détrousse une femme. Il lui fait porter des fleurs. Gentleman cambrioleur est un grand seigneur. La nuit, sans déranger votre sommeil, il décroche sans bruit le tableau acheté la veille. Puis avant de partir, après ses coupables travaux, il laisse un mot sur le piano.
Merci Bruno Fuma, on en sait un peu plus sur les 19 octobre à travers les âges. Vous êtes né un 19 octobre ? Eh bien bon anniversaire à vous. Les choristes, voix sur ce chemin. Et voyez sur notre chemin arriver à 6h41, Didier Rance et sa carte blanche, ouvrir le cœur à la joie pour évangéliser.
Bonjour à toutes et à tous. J'évoquais la semaine dernière le Seigneur des Anneaux, Tolkien, et je rappelais, voyez dans sa fin le retournement inespéré de son œuvre d'imagination comme un écho de la plus grande, ce qu'il appelait e-catastrophe de l'histoire réelle, la résurrection du Christ. Soit dit entre nous, ce terme e-catastrophe a toujours un air barbare. C'est dommage, car il décrit ce qu'on trouve dans bien des récits de conversion à quelques niveaux qu'on prenne ce mot. Tolkien élargit son propos à toutes les histoires russines et il leur donnait une valeur, sinon catéchétique, au moins de préparation évangélique, catéchétique. Pour lui, le retournement soudain, inattendu et donc gracieux, je le cite, constitue une restauration, même une bonification de la situation bonne de départ, autrement dit, une sorte de miracle. C'est pourquoi la joie que celui-ci procure à son lecteur est une essence particulière, toujours Tolkien. Il peut donner à l'enfant ou à l'homme qui l'entend, quand le retournement est bien, un frisson, un battement, une élévation du cœur proche, voire accompagné de larmes. Le propre de cette joie est d'aller au-delà du soulagement, d'ouvrir une espèce d'évidence du bien, du vrai par rapport à l'univers dans lequel il nous a introduit. Il donne un aperçu fugitif de la joie, avec un J majuscule, une joie qui est au-delà de ce monde, aussi poignante que la douleur. Autrement dit, les mystères de la foi chrétienne, l'affaire la plus sérieuse de l'humanité. Tolkien espérait susciter de même chez celui qui le lisait, qui le lit, cette joie, disposer son cœur, élargir sa capacité à la recevoir, quand soudain l'homme se retrouve en vérité face au Christ et à ce que signifie pour de bon Noël et Pâques, ces faits historiques. La plus belle des histoires jamais imaginées est une histoire vraie. Et son auteur n'est-il pas l'artiste suprême, l'auteur de la réalité en même temps, nous dit Tolkien. Son objectif est donc non seulement religieux, mais aussi missionnaire, on peut dire. Peut-on l'évaluer, quantifier le nombre de convertis de Tolkien? Si C.S. Lewis, le père Murray, ou l'essayiste anglo-saxon Joseph Pearce sont les plus fameux, on peut trouver ailleurs des témoignages. Vous pouvez en chercher, mais n'oublions pas que ce n'est pas Tolkien, mais Dieu qui convertit, et qu'il travaille toujours au un par un.
Merci Didier Rance. La carte blanche de Didier Rance, c'est tous les samedis matins. Allez, restez à l'écoute, les bons plans du Petit Futé arrivent juste après un peu de musique.
Radio Notre-Dame, RCF.
Marc-Antoine Charpentier pour vous accompagner en cette matinée du samedi 19 octobre, Radio Notre-Dame, RCF, il est 6h44. Bonjour Stéphane Zeremeta.
Bonjour Simon.
Alors aujourd'hui nous allons sur le littoral normand.
Oui, nous partons en Seine-Maritime, donc parce que le mois de novembre c'est le hareng qui est à l'honneur. Alors c'est un poisson roi, on peut dire, hein, qu'on va déguster, mariné, grillé, accompagné d'un petit filet de citron. Bon, ça va nous permettre de prolonger un peu la saison des barbecues.
On commence par le Tréport avec son joli petit port de pêche.
Le Tréport, c'est une station balnéaire très fréquentée pendant tout l'été. C'est la ville côtière la plus proche de Paris. La plage, le quartier des pêcheurs, c'est très sympa. Et le samedi 9 et le dimanche 10 novembre, il y a la harangade. Donc on va y servir du hareng cuisiné sous toutes ses formes, avec des frites, bien sûr. Alors je vous conseille particulièrement le hareng sort. On l'a aussi salé, fumé. C'est assez puissant en goût. L'ambiance est festive, il y a de la musique et des spectacles de danse. Donc c'est au Tréport.
Dieppe aussi célèbre les trésors de la mer.
Dieppe, c'est la doyenne des stations balnéaires françaises. C'est aussi le premier port pour la coquille Saint-Jacques. Mais pendant deux jours, le 16 et 17 novembre, la ville va célébrer la pêche, les métiers. C'est la foire du hareng, encore une fois, mais également de la coquille Saint-Jacques. Donc ça va être convivial. Alors, on va déguster du hareng, avec des petites pommes de terre au barbecue. Au programme, on a des marchés d'artisans, une petite fête foraine, un vide-grenier, des représentations d'art vivant et un feu d'artifice. Bon, et puis on va découvrir Dieppe aussi. Hein. Il y a un charmant petit front de mer de 2 km de long recouvert de galets qui est absolument superbe.
Le 17 novembre à Saint-Valery-en-Caux, aussi, faites le hareng.
Alors là, on va d'ailleurs s'y rendre juste après Dieppe, hein, c'est pas très loin, 45 minutes de voiture. Saint-Valery-en-Caux, on est au creux de falaises monumentales. Beaucoup d'artistes s'y sont arrêtés pour s'inspirer du décor. Je pense à Victor Hugo, Gustave Flaubert. La campagne environnante aussi est agréable. On va faire encore des balades à pied, à vélo. Hein. Ce sera bien pour l'arrière-saison. Et côté gastronomie, il y a plein de petits restaurants de fruits de mer intéressants. Mais si je vous en parle, c'est que le 17 novembre, c'est la foire au hareng. Oh, vous avez compris, c'est le thème du jour. Donc, on va y servir ce fameux hareng aussi. Des moules, c'est l'autre spécialité locale. Alors, défilé, concert de chant de marins toute la journée. Ça va vraiment être la fête.
Les 23 et 24 novembre, c'est à Fécamp que la tradition des fêtes du hareng se clôture.
Alors, ça, c'est vrai. C'est le rendez-vous qui est devenu incontournable dans la région. Il y a plein de dégustations là à nouveau, mais aussi plein d'animations pendant tout le week-end. Si Fécamp fête le hareng, la ville est quand même historiquement connue comme la cité des Terre-Neuvasses, qui a pris son essor au XVIe siècle et y partait au large de Terre-Neuve dans les eaux canadiennes de l'Atlantique Nord. Alors c'était plutôt la morue que l'on pêchait à l'époque. Il y a une histoire absolument dingue. On va pouvoir visiter comme ça les pêcheries de Fécamp. Le musée est installé dans une ancienne sécherie. C'est vraiment formidable. En tout cas, cette tradition des harengs en Seine-Maritime, c'est vraiment l'occasion d'en profiter en novembre.
Merci Stéphane Zeremeta. Je rappelle que des guides du Petit Futé sont à remporter. Envoyez un mail à jeu@rcf.fr avec votre adresse postale. Et justement, vous êtes peut-être en train d'écrire votre petit mail pour emporter des guides du Petit Futé qui vont vous donner des idées de sortie. En plus, c'est le début des vacances de la Toussaint. Après des intempéries qui ont marqué une bonne partie du territoire, la météo est un petit peu plus clémente pour débuter ce week-end. Ce premier week-end de vacances peut-être pour vous. Un petit peu plus encore sur la façade atlantique. Aujourd'hui, partout ailleurs, alternance entre nuages et éclaircies. Du côté des températures, c'est bien doux. On relève ce matin de 8 à 16 degrés. 8 à Aurillac, 12 à Paris, 13 à 14 à Lyon et Marseille, 16 degrés, c'est la maximale ce matin du côté de Nice. Et cet après-midi, le mercure grimpera jusqu'à 21 degrés. Restez à l'écoute d'ici quelques minutes, dans moins d'une demi-heure. L'invité culture sera consacré aux journées nationales de l'architecture qui ont lieu ce week-end. Ça se passe un peu partout en France. Il y a des événements un peu partout. Voilà, une idée de sortie, pourquoi pas, pour ce début de week-end. Donc restez à l'écoute, ça sera aux alentours de 7h15. Nous sommes le samedi 19 octobre. Vous écoutez Radio Notre-Dame et RCF. Excellent réveil à toutes et à tous. La matinée se poursuit.
Missionnaires ensemble. Du 13 au 20 octobre, c'est la semaine missionnaire mondiale animée par les œuvres pontificales missionnaires. Le pape François nous invite à venir en aide aux diocèses les plus démunis dans leur mission d'évangélisation en Afrique, Asie, Océanie et Amérique latine et aux populations les plus vulnérables. Soutenez la mission des œuvres pontificales missionnaires en envoyant vos dons à OPM 12 rue Sala, 69002 Lyon ou sur opm-france.org.
Bonjour à tous. Dans Effervescence cette semaine, on découvre la figure de DJ Mehdi. Avant d'avoir vu la formidable série d'Arte, je n'avais jamais entendu parler de ce compositeur de génie qui a révolutionné le rap français avant de devenir un pilier de la French Touch.
Effervescence, c'est ce samedi à midi.
Et sur RCF, c'est l'heure de la prière du matin. Dans quelques instants, Sœur Catherine de Coster nous proposera sa méditation de l'Évangile. Pour ce samedi, l'évangile selon Saint-Luc au chapitre 12, les versets 8 à 12. L'Esprit-Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié à son tour en face des anges de Dieu. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant les gens des synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire.
Écrit pour une communauté qui doit affronter l'hostilité de milieux opposés à la foi du ressuscité. Des païens qui méprisent la superstition de la foi en la résurrection et des juifs qui craignent et rejettent ce rameau dissident du judaïsme qui menace, selon eux, le vrai monothéisme. Les disciples d'alors peuvent se sentir faibles et démunis devant cette hostilité. Comme aujourd'hui, de nombreux chrétiens sont menacés de mort s'ils se prononcent pour le Christ et témoignent de l'Évangile. Mais ne pensons pas seulement aux chrétiens persécutés d'hier et d'aujourd'hui, car le témoignage de notre foi au Christ est de chaque jour, de chaque instant. Il est à vivre constamment et cela nous amène à laisser de côté le souci exagéré de l'opinion d'autrui, à oser nous situer différemment et parfois en opposition au monde ambiant. Cela se présente dans nos conversations, face à des situations d'injustice criantes, à des lois contraires aux droits de l'homme, contraires à l'Évangile. Soyez toujours prêts à rendre compte de votre espérance devant ceux qui vous en demandent compte, nous dit saint Pierre dans sa première épître. Dans nos relations, dans les questions de société, face aux injustices, aux mensonges, aux violations des droits de l'homme, à la maltraitance, aux abus de pouvoir, à toutes les formes de corruption, osons-nous prendre position selon l'Évangile pour le Christ? Sommes-nous prêts à rendre compte de notre espérance et à nous engager dans des gestes concrets pour la sauvegarde de la maison commune, la paix dans les familles, entre les peuples, pour la dignité de chaque homme? Cessons d'être timides et trop raisonnables. Quittons notre confort. Écoutons ce que l'Esprit-Saint nous enseigne et faisons preuve d'audace au coude à coude avec tous les hommes de bonne volonté.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Avec ce chant du groupe Glorious, souffle en ce lieu que se referme la prière du matin. Sœur Catherine Coster avait préparé la méditation de l'évangile. Il s'agissait de l'évangile selon Saint Luc, au chapitre 12, les versets 8 à 12.
Samedi 19 octobre, qui fêtons-nous aujourd'hui ? Isabelle Delaunay a la réponse.
Bonjour, en ce 19 octobre, nous fêtons les René, prénom qui à l'origine signifie « naître à une nouvelle vie par le baptême ». Nous commémorons le martyre de deux missionnaires français au Canada au XVIIe siècle, René Goupil et Isaac Jogues. Saint René Goupil était médecin et il avait choisi de soigner les autochtones. Arrêté par les Iroquois, il fut ordonné prêtre durant sa détention et fut mis à mort. Quant au bienheureux jésuite Isaac Jogues, il fut aussi prisonnier des Iroquois qui le mutilèrent et en firent leur esclave. Nous faisons aussi mémoire d'un autre martyr, du XXe siècle celui-là, le bienheureux père Popielusko, assassiné à 37 ans par la police polonaise et aumônier du syndicat Solidarnosc à Varsovie. Son histoire a d'ailleurs été relatée dans un film, Le Complot. Voici ce qu'il disait sur la vérité. « La vérité qui ne coûte rien est mensonge. » La condition essentielle de la libération de l'homme pour lui permettre de vivre en vérité, c'est le courage. Le courage est une victoire sur la peur. Si le citoyen renonce au courage, il devient esclave. La seule chose dont il faut avoir peur, c'est de trahir Jésus-Christ.
Merci Isabelle Delaunay, bonne fête à tous les René qui nous écoutent, on pense bien à vous. Allez, restez à l'écoute dans 5 minutes, 1000 questions à la fois avec Florence Châtel, son invitée Catherine Labbé, autour de la question « Que nous dit la foi au Christ ressuscité des changements possibles dans nos vies ?» Voilà, question à laquelle elles tenteront de répondre, Florence Châtel et Catherine Labbé. Et puis une idée sortie, pourquoi pas aller admirer les architectures un peu partout en France. Elles sont les journées nationales de l'architecture ce week-end. On en parlera avec l'invité culture à 7h15. Ça sera une représentante du ministère de la Culture. Justement, soyez au rendez-vous.
Vous écoutez RCF à Bordeaux sur le 88.9.
Bonjour à tous. Dans Effervescence cette semaine, on découvre la figure de DJ Mehdi. Avant d'avoir vu la formidable série d'Arte, je n'avais jamais entendu parler de ce compositeur de génie qui a révolutionné le rap français avant de devenir un pilier de la French Touch.
Effervescence, c'est ce samedi à midi.
Il n'est désormais plus rare de rencontrer des prêtres étrangers en mission dans les paroisses françaises. Ceux que l'on appelle prêtres fidei donum, officient en ville, mais surtout en monde rural. Cette semaine, je vous emmène à Aubenas, en Ardèche, à la rencontre d'un prêtre polonais et de deux prêtres africains.
Un reportage à découvrir ce samedi à 15h, en partenariat avec les œuvres pontificales missionnaires « Agir partout avec le Christ ».
Envie de vacances au soleil ou d'une escapade à la montagne ? Besoin de vous ressourcer ou de partir à l'aventure ?
En famille, entre amis ou en solo, pour chacune de vos envies, Petit Futé vous propose plus de 700 guides en France et partout dans le monde, avec la version numérique offerte.
Retrouvez aussi tous les bons plans Futé sur petitfuté.com.
Petitfuté.com, les bonnes adresses du bout de la rue au bout du monde.
Vous écoutez RCF dans les Ardennes, à Charleville-Mézières, sur le 94.6, à Vouziers, sur le 98.2,